Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 mars 193, nous plongeons dans l'Antiquité avec la mise aux enchères de l'Empire romain. Au deuxième siècle de l'ère chrétienne, l'Empire romain s'étend sur près de 4 millions de kilomètres carrés. De l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate, Rome est au sommet de sa gloire. Pourtant, le 28 mars 193, l'Empire romain est mis aux enchères. Nerva, Trajan, Adrien, Antoine et Marc Aurèle, ces règnes sont considérés comme exemplaires. Ils marquent au IIe siècle l'apothéose de l'Empire romain. Cependant, Marc Aurèle, cet homme grand et bon, ce philosophe empereur plein de sagesse et d'humilité, commet une tragique erreur. Au lieu d'imiter ses quatre prédécesseurs et de choisir pour lui succéder l'homme le plus qualifié, il opte pour son fils, Commode, dont le biographe livre une description sans compromis. Il était vil, malhonnête, libidineux, grossier et dépravé. Commode gouverne 12 années. Il aurait pu se maintenir au pouvoir plus longtemps s'il n'avait pas offensé la garde prétorienne. Un jour, devant toute la garde assemblée, il pousse le préfet du prétoire dans la piscine impériale, après quoi il le fait danser entièrement nu devant ses concubines et le tue. Le nouveau préfet Laetus comprend rapidement la nécessité d'écarter l'empereur. Marcia, la maîtresse de Commode, et Éclectus, son chambellan, participent à sa conspiration. La nuit du nouvel an 192, ils empoisonnent celui qui se voulait le jeune Hercule. Comme la potion semble agir trop lentement, il convoque un lutteur professionnel qui rompt le cou de l'empereur dans son bain. Comme successeur, Laetus choisit un homme de bien, un vénérable et vertueux sénateur nommé Pertinax. Les troupes approuvent le choix de leur préfet, mais grognent dès l'instant où Pertinax les invite à se conduire en soldats. Il veut un retour aux plus anciennes vertus romaines, la discipline et l'austérité. Il vend aux enchères le luxueux mobilier de Commode et son vaste harem bisexuel. Les repas impériaux deviennent ascétiques. Les serviteurs du palais pressent les gardes prétoriens de tuer cet obsédé de discipline. Ainsi, le 28 mars 193, après 87 jours de règne, Laetus et ses soldats tuent Pertinax et ramènent sa tête au camp. Mais Laetus n'a pas la moindre idée du successeur. Des soldats courent dans les rues de Rome en criant que le titre impérial est en vente au plus offrant. Cette agitation est propice aux opportunistes. Le premier candidat à se présenter est Sulpicianus, le praefetus orbi équivalent du maire de Rome. Il fait de toute évidence bonne impression aux soldats. C'est alors que Didius Iulianus, l'homme le plus riche de la capitale impériale, apparaît accompagné de son gendre Repentius. En approchant des murs de Rome, ils entendent les cris rauques des soldats qui refusent de les laisser entrer. Didius Iulianus crie en vain aux gardes de son identité. Un plan ingénieux lui vient alors à l'esprit. Il fait hisser des pancartes sur les murs pour transmettre son message. Il y proclame son intention de faire revivre la mémoire de Commode. C'est un trait de génie. Aussitôt, une échelle est placée contre la muraille pour permettre l'ascension du corpulent millionnaire. La confrontation entre Didius Iulianus et Sulpicianus débute alors. Tandis que chacun augmente son offre, Le monde oscille. Au moment où les enchères se stabilisent à 23 000 sesterces, Didius Julianus frappe un grand coup. Il crie 25 000. Le tour est joué, Didius Julianus est empereur. Il est porté en triomphe à travers les rues de Rome. Le Sénat doit ratifier cette désignation. Une séance est convoquée le soir même. Didius Julianus prononce un discours dans lequel il ne fait aucune allusion à la garde prétorienne qui encercle le Sénat. Entrant au palais impérial, le nouvel empereur tombe sur le corps décapité de Pertinax. Cette vision morbide lui provoque un rire qui s'accentue durant le repas frugal que son défunt prédécesseur n'a pas achevé. Il ordonne que les restes de la collation soient jetés aux chiens et commande un festin. Le bref règne de Didius Julianus n'est qu'un très long banquet. Avide de reconnaissance, il donne de nombreux dîners pour les sénateurs, mais rien ne peut adoucir son goût. Le Sénat le haït autant que le peuple. Il règne 66 jours et le 1er juillet 193, l'armée de Septime Sévère pénètre dans Rome et dépose l'homme qui a acquis l'Empire romain entre l'entrée et le dessert. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. C'est Serge Reggiani qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1967 des paroles de Georges Moustaki, « Ma liberté ».
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres destinés au jeune public, avec pour commencer Les Dinosaures. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse, comme les deux autres titres d'ailleurs que je vais vous présenter dans la collection Mon Imagier Animé, avec de très belles illustrations d'Amélie Falière. De l'immense Diplodocus au Spinosaure, en passant par le Tyrannosaure, le Vélociraptor, l'Ankylosaure, ce livre illustré avec soin présente la diversité des dinosaures, qu'ils soient herbivores ou carnivores. Certains vivent sur Terre, d'autres privilégient le milieu aquatique ou aérien. Bref, cet ouvrage permettra de mieux se familiariser avec ces animaux qui ont marqué la préhistoire. Il est accessible aux enfants dès l'âge de 18 mois. Les dinosaures, c'est dans la collection Mon Imagier Animé chez Gallimard Jeunesse, avec des illustrations d'Amélie Falière. Mes chansons de France, c'est le volume 1, avec des illustrations de Clémence Pénicaud, toujours chez Gallimard Jeunesse, dans la collection Mes petits imagiers sonores, Pirouette Cacahuète, Il était une bergère, Frère Jacques, À la volette ou encore Au clair de la lune, 5 chansons traditionnelles du répertoire français à l'intention des jeunes publics sont ici réunies et délicatement illustrées. Ce livre sonore est également un jeu. Le livre est muni d'une puce électronique. L'enfant appuie sur la puce et désigne ce qu'il entend. Il appuie à nouveau et cherche à quoi cela correspond, et ce, autant de fois qu'il le souhaite. Mes chansons de France, le volume 1, chez Gallimard Jeunesse, dans la collection Mes petits imagiers sonores, avec de très belles illustrations de Clémence Pénicaud. Et pour terminer cette chronique, Une ville au fil du temps, toujours chez Gallimard Jeunesse, avec des illustrations de Steve Noon. De la préhistoire à l'époque actuelle, cet album présente l'évolution de l'espace urbain en Occident à travers les âges. Au fil des pages, le jeune lecteur découvre la ville romaine, la cité médiévale, la ville du siècle des Lumières et celle du 19e siècle à l'époque de la Révolution industrielle. L'ouvrage rappelle des événements historiques majeurs comme les raids vikings, la peste noire et le ravage des guerres. En conclusion, est évoquée l'idée de la ville du futur. Les illustrations sont vivantes et la chronologie fournie au devant et à l'arrière de l'ouvrage est particulièrement didactique. Je signale que dans la même collection est parue La Chine au fil du temps. Voilà pour cette chronique littéraire. Nous allons nous séparer en chanson avec Serge Reggiani. Après avoir remercié Lucas qui a réalisé cette émission, nous écoutons un titre de 1967 avec, composé par Albert Vidali, Les loups sont entrés dans Paris.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris, mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues. Les loups s'en viennent la nuit venue, alors. Les loups, les loups ont regardé vers Paris. De Croatie, de Germanie, les loups ont regardé vers Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses dix femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit six ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, Perreux, Carousse, Liesse et Bombance, dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups, les loups.